Et comme chaque mardi soir à 18h15, aux environs de 18h15, on retrouve le rendez-vous du libraire pour quelques idées de lecture ce soir avec Daniel Deloche et Philippe Bonjour. Bernadou. Bonjour,
Bonjour
tout le monde. Bonjour. Quel est l'auteur du mois aujourd'hui?
Alors, vous savez que ce mois de novembre sera marqué par la tenue pour la 25e année du Festival littéraire Les Lettres d'automne. Et bien sûr, nous reviendrons les prochaines semaines sur cette manifestation et sur son invité d'honneur, Agnès de Sarthe. Et par la bande, j'y arrive, c'est un livre d'Agnès de Sarthe, coécrit avec Geneviève Brisac, qui m'a donné envie de revenir sur la personne de Virginia Woolf, qui sera donc l'auteur du mois. J'avais gardé de Virginia Woolf l'image d'une vie en déséquilibre, jusqu'à la scène finale où, à 59 ans, elle s'enfonce dans la River House avec des cailloux plein les poches. Stéréotype peut-être de notre temps, qui résume une vie à une image et une œuvre à une névrose. Le mérite du livre d'Agnès de Sarthe et Geneviève Brisac, c'est de montrer combien, en dehors de ces trois dépressions, qui sont certes extrêmement graves et perturbantes, en dehors de ça, Virginia Woolf a mené une vie foisonnante, ô combien lumineuse à l'opposé de cette noirceur qui par moments l'a terrassée, ô combien active, ô combien ancrée dans son temps, et même en avance sur son temps. Et c'est peut-être cette avance qui l'a amené, en 1941, à fuir l'innommable qui s'annonce et à entrer doucement dans l'eau, les poches pleines de pierres. Mais avant cela, elle aura été l'âme de la modernité anglaise au sein du groupe de Bloomsbury, qui sera le haut lieu intellectuel de l'Angleterre de ces années-là, et où seront mises à l'épreuve les limites de la liberté de penser et de la liberté d'aimer. C'est là qu'elle rencontre Leonard Woolf, avec qui elle se marie, et à qui elle adresse ses derniers mots, si reconnaissant, tu m'as donné tout le bonheur possible. Avec lui, elle fonde la Hogarth Press, une maison d'édition au départ au service du groupe, et d'elle, soyons honnêtes, mais qui publie bientôt les premières traductions de Freud, de Rilke, de Lorca, et les grands noms de la littérature russe que Virginia Woolf appréciait par-dessus tout, Dostoïevski en premier. Et puis tout de même, il y a son œuvre, 10 romans, Orlando, La Promenade au lac, Mrs. Dalloway, je vais pas les citer tous, 6 recueils de nouvelles, son journal, 8 tomes en français, sa correspondance, à ma connaissance jamais publiée en entier, et de nombreux essais, dont peut-être le plus célèbre est Une chambre à soi, sur lequel je terminerai. Une chambre à soi, c'est la revendication dans la maison d'une pièce où une femme pourrait être totalement chez elle, pour travailler, pour rêver, pour s'abstraire du monde masculin et de la place ambiguë qui lui est réservée. Et on comprend bien que ce n'est pas que dans la maison que Virginia Woolf revendique cette place-là. Sur ce sujet, 6 lignes de Virginia Woolf. Imaginez que Shakespeare ait eu une sœur aussi merveilleusement douée que lui. Elle n'a pu aller à l'école, n'a eu aucune chance d'apprendre à écrire, on l'a fiancée, elle s'est enfuie. Elle voulait devenir actrice, on s'est moqué d'elle, un comédien l'a prise en pitié, quand elle était enceinte de lui, elle s'est jetée dans la Tamise. C'est la condition de la femme, c'est aussi, je parlais de préscience tout à l'heure, bien sûr de quelque chose qui obsédera Virginia Woolf jusqu'à ce qu'elle accomplisse son geste fatal. Mais c'est donc ce combat féminin, c'est pour retrouver cet aspect combatif, et tout à fait tonique que je vous invite à lire La double vie de Virginia Woolf, de Geneviève Brisac et Agnès de Sarthe, où à travers elle, les auteurs parlent de toutes les femmes, et bien sûr d'elles-mêmes. C'est publié en collection de poche Point Seuil.
C'était l'auteur du mois, donc Virginia Woolf. Et avec vous, Daniel, on va voir une histoire de tempête.
Oui, et on va rester dans un hiver très proche et tout aussi joyeux, puisqu'il y a, vous allez voir, des correspondances avec la vie, surtout la mort de Virginia Woolf. C'est l'histoire d'un homme, un écrivain. On lui a prêté une maison dans un port pour écrire son prochain livre. Mais il se rend compte que ce n'est pas une bonne idée parce qu'il ne sait écrire que chez lui. Alors il décide qu'il repartira demain. Il passe une dernière soirée au bord de l'eau à regarder accoster les derniers bateaux parce que c'est la nuit tombe. Et un homme vient s'asseoir à côté de lui et lui demander la permission de lui raconter sa vie avant d'aller se mettre à l'eau, comme vous voyez, même sujet. Il n'en a aucune envie, mais enfin, c'est difficile de dire non. Alors l'homme parle, mais lui ne l'écoute pas parce qu'il pense à son prochain livre. Puis l'inconnu le remercie et s'en va. Il disparaît au bout de la jetée. L'écrivain se dit qu'il n'a pas pu se noyer parce que Rien que de raconter une histoire, c'est ça qui permet de continuer de vivre. Il en sait quelque chose. C'est pour ça qu'il écrit. Mais l'homme ne revient pas. Alors, il ne reste que l'espoir qu'il ait raison, n'est-ce pas? C'est un très très joli texte poétique sur l'amitié et la solitude, sur le silence et sur les mots retenus. Il est paru aux éditions du Sonneur, dans une collection toute nouvelle dont le nom est « Ce que la vie signifie pour moi ». C'est une citation de Jack London et je vous conseille fortement cette lecture qui, en soi, je n'ai certainement pas pu vous transmettre qu'elle peut faire du bien, qu'elle peut être joyeuse. Peut-être pas joyeuse n'est pas tout à fait le mot, mais réconfortante finalement, ce qui est pourtant le cas.
Et dans la même collection est paru un livre de Franz Bartelt, qui est, on le sait, un des auteurs préférés de Jacques Griffaud, qui est souvent avec nous à l'antenne.
Et qui vient très régulièrement au moment de Place aux Nouvelles.
Voilà, Daniel, là, vous venez de nous parler donc de Une histoire de tempête de Hubert Mingarelli. Avec vous, Philippe, eh bien, on part du côté de l'Alabama aux États-Unis.
Oui, pour un livre graphique, et on ne parle pas souvent d'art graphique dans cette émission, c'est vrai que c'est un genre difficilement radiophonique. Mais j'ai découvert, grâce à la quinzaine littéraire d'ailleurs, et j'en profite pour demander à tous les amoureux du livre d'acheter, ne serait-ce que de temps en temps, une revue littéraire. Que ce soit la quinzaine, le magazine Lire, le Matricule des Anges, elles sont en train de crever, et avec elles l'ouverture sur la diversité de la création littéraire. Fin de la parenthèse. J'ai donc découvert un livre exceptionnel grâce à eux, Scottsboro, Alabama, publié aux éditions de L'Échappée. Au départ, un fait divers. En 1931, en Alabama, 9 jeunes noirs sont accusés d'avoir violé 2 femmes blanches à bord d'un train. Peu importe qu'ils ne se soient jamais trouvés dans le même compartiment qu'elles, on ne s'arrête pas de tels détails en Alabama en 1931, et à peine plus aujourd'hui. La bataille juridique qui suit pour soustraire les accusés de la chaise électrique est une des plus importantes de l'histoire américaine. Elle va durer 8 ans. En 1935, donc en pleine bagarre, apparaît le livre dont je vous parle aujourd'hui et qui n'est sorti aux États-Unis qu'en 2002. Il s'agit de 118 linogravures d'une force incroyable par l'opposition de grands aplats noirs sur fond blanc, sans faire de mauvais esprit, qui retrace dans un esprit militant l'épisode de Scottsboro dans l'histoire, qui la replace dans l'histoire de l'esclavage des Noirs. Et appelle à l'avènement d'une société égalitaire communiste et à une lutte commune des oreilles noires et blancs contre le patronat, c'est pas gagné. L'histoire en elle-même est terrifiante, mais j'ai vraiment été soufflé par la puissance des illustrations. Vous savez ce que sont les linogravures? C'est du linoléum qui est découpé et qui est utilisé comme tampon. On enduit d'encre noire ce qui reste, et donc ça fait des images qui sont très très fortes. Et les auteurs de ce livre, curieusement, Lin Chi Kan et Tony Perez, ben on ne sait pas qui c'est. Ils n'ont jamais laissé d'autres traces dans l'histoire que ce livre, mais c'est déjà beaucoup. Publié aux éditions de L'Échappée, Scottsboro, Alabama.
Merci Philippe. Quelques idées à venir pour sortir et aller à la rencontre peut-être d'auteurs?
Eh bien, nous vous conseillons de venir nous rencontrer tous les libraires de Montauban, réunis avec l'équipe bien sûr de Confluence, pour la présentation de Lettres d'automne de cette année, jeudi 5 novembre à 19h à la Petite Comédie, rue de la Comédie, c'est-à-dire à côté du théâtre aux Lames de Gouges. Nous avons eu l'honneur d'être invités par l'équipe de Confluence pour présenter nos coups de cœur liés bien sûr aux Lettres d'automne de cette année. Donc chacun d'entre nous va présenter brièvement un livre et en lire un extrait ou le faire lire par un autre libraire, ainsi que bien sûr l'équipe de Confluence, notamment Maurice Petit, vont présenter d'une façon générale le programme. Donc c'est gratuit, c'est dans la limite des places disponibles, le jeudi 5 novembre à 19h.
Oui, la réservation est indispensable car, comme son nom l'indique, la Petite Comédie est petite. Elle est petite et drôle, ce qui vaut mieux qu'être grande et triste. Le samedi 7 à 16h30, ça se passera chez nous à la Cavalière de la librairie de Loche, rencontre avec Geneviève Dreyfus-Armand autour de son livre « L'Espagne, passion française ». Rencontre et signature, Geneviève Dreyfus-Armand aux éditions des Arènes signe « L'Espagne, passion française » qui, comme son titre l'indique encore, analyse les rapports de l'Espagne et de la France avant et après, pendant et après la guerre d'Espagne. C'est dans le cadre des journées Manuel Azaña qui se tiennent le 5, 6 et 7 novembre, un peu partout dans Montauban.
Et toujours dans le cadre des journées Manuel Azaña, le soir même, vous pouvez aller au théâtre pour écouter François Soulier et d'autres qui ont mis en lecture Le Pas pleurer de Lydie Salvert, le roman du prix Goncourt de l'an dernier. Et nous serons là pour présenter cet ouvrage que la plupart des Montalbanais ont déjà acheté, mais il reste encore quelques-uns.
Prix Goncourt de l'an dernier, je le rappelle.
Oui, je croyais l'avoir dit. Et j'ai un mot qui écoute pas. Et également, bien sûr, du coup, de nouveaux livres de Geneviève Dreyfus-Armand et les livres que nous avons en stock concernant la guerre d'Espagne. Donc, samedi 7 novembre à 20h30 au Théâtre Olympe de Gouges.
Et si vous avez un petit creux, les mêmes jours, du moins décalés d'un jour, les 6, 7 et 8 novembre à 1h30, c'est le salon Chocolat et Gourmandise, organisé par les Kiwani. Nous y tiendrons table le samedi et le dimanche, pas avec des friandises bien sûr, mais avec des livres sur ce thème-là.
Nous serons donc voisins, puisque nous y serons aussi avec Rémi tout le week-end, vendredi, samedi et dimanche.
Alors venez déguster nos livres.
Et venez déguster donc tous les bons produits qu'il y aura dans Qu'est-ce qu'on déguste vendredi soir aussi. Vous êtes invité.
Et quant au dimanche, encore une fois, ben vous allez avoir du mal parce qu'il faut aussi que vous alliez à le dimanche 8, donc à Mouillac, pour l'atelier d'écriture qui concerne cette fois-ci les métiers. Donc pour écrire sur les métiers, l'APIC, l'Association pour la promotion de l'identité d'Écosse du Quercy, vous invite à participer à ce prochain atelier. Il faut vous inscrire au plus tôt au 05 63 67 04 82. C'est gratuit, mais il faut amener un petit machin sucré ou salé, passer juste avant au salon du chocolat.
Vous pouvez vous inscrire aussi auprès de la librairie Beau Livre chez notre bouquiniste Boulegaïr et de la Place Nationale, puisque c'est en partenariat avec lui qu'a lieu cette journée.
Le rendez-vous du libraire, c'est tous les mardis sur l'antenne et en podcast quand vous voulez, hein, sur cfmradio.fr. Si vous voulez bien, vous nous rappelez qui était l'auteur du mois et les deux ouvrages que vous nous avez proposés?
Alors, je vous ai parlé de Virginia Woolf à l'occasion de l'apparition du livre Geneviève Brisac, enfin l'apparition, de la rencontre avec Geneviève Brisac et Agnès de Sarthe, La double vie de Virginia Woolf au Point Seuil. Et ensuite, je vous ai parlé du très beau livre Scottsboro, Alabama aux éditions de L'Échappée.
Et vous, Daniel?
Et moi, j'ai essayé de vous présenter Hubert Mingarelli, une histoire de tempête dans la collection Ce que la vie signifie, qui est presque plus long que le livre, car j'avoue que c'est un tout petit bouquin, qui est publié aux éditions Le Sonneur.
Merci voilà. Daniel, merci Philippe, à la semaine prochaine.
Avec plaisir, à bientôt.
Au revoir.